Donc, nous allons commencer officiellement. Et donc, juste d'abord, une toute petite annonce pour peut-être quelques personnes qui n'étaient pas là hier. Alors, très pratique. Bien évidemment, vous avez vu les toilettes en entrant, mais si jamais vous avez besoin d'autres toilettes, si vous allez dans la pièce, dans la salle, quand vous entrez, il y a un escalier, et en haut aussi, à l'étage, il y a des toilettes, donc juste pour savoir ça. Deuxièmement, on peut avoir de l'eau, on peut boire de l'eau dans cette salle, mais on ne peut vraiment pas manger quoi que ce soit dans la salle. Et je pense que c'est tout ce qu'on a besoin de dire par rapport à ce lieu. Puis après, on expliquera plus par rapport au repas de midi. Et donc, aujourd'hui, je voudrais un petit peu continuer de ce que l'on avait fait hier. Donc, hier, on avait vu Vedana, tonalité du ressenti, sensation, impression. Et donc, juste un peu pour reconsidérer un petit peu. Et donc, on avait vu que le texte, le fameux texte qui disait qu'il y a 108 Vedana. Et en fait, ça ne veut pas dire que l'idée... Il faut faire attention que quand on parle des Vedana, de la tonalité du ressenti, de ces sortes de ressentis qu'on a à travers les sens avec le contact, qui peuvent être désagréables, agréables, et ni l'un ni l'autre neutres, et de voir que, en fait, c'est un peu comme un thème, c'est comme un peu une façon de regarder notre expérience, de nous rendre compte qu'il y a un certain niveau de notre ressenti, de notre expérience, qui va beaucoup nous influencer. Et donc, on regarde, il faut voir que quand on parle, quand je, personnellement je parle des Vedana, de la tonalité du ressenti, je ne suis pas en train de faire un exposé pour vous convaincre que c'est vrai et qu'on va scientifiquement prouver que ça existe et dans quel sens. Mais en fait, c'est une façon de regarder quelque chose, d'essayer d'exprimer quelque chose qui est assez subtile et qui est un peu difficile à vraiment définir. Donc c'est vraiment, je ne suis pas en train de vous demander de faire une recherche scientifique, mais c'est en fait une exploration de nos sens, une exploration de notre contact avec le monde, mais aussi du contact avec notre monde intérieur, et d'un certain niveau de ressenti, qu'on va soit ressentir à travers plus quelque chose de corporel, ou quelque chose de plus mental, ou qui des fois, si c'est développé, va devenir plus une émotion. Et aujourd'hui, donc hier on a parlé plus par rapport au sens, par rapport à travers le sens, d'entendre un son, de voir quelque chose, d'avoir un goût, de sentir quelque chose, et qu'à ce contact, en même temps, il y aura cette tonalité agréable, désagréable, neutre, différentes échelles, des fois ça va être très fort, des fois ça va être très léger. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un petit peu par rapport à ces Vedanas, sur pour le matin, l'après-midi, on regardera autre chose. Par rapport aux Vedanas, par rapport à la tonalité du ressenti, ces impressions, c'est comme un peu quelque chose qui nous colore un petit peu. Alors bien sûr, comme c'est à travers les sens, et on va parler des six sens pour rendre les choses simples, je suis consciente que scientifiquement, il y a beaucoup plus de sens, mais on ne va pas partir là-dedans, à moins que vous voulez y aller. Et donc, on prend les six sens, on a ce contact, on a cette tonalité, et comme on disait, on en parlait hier, il faut voir que tout est imbriqué ensemble. Donc hier, on a parlé, bien sûr, d'attention, d'intention, de contact et de tonalité et de perception. Et je pense que c'est là que ça va être intéressant à deux niveaux. De voir que, en fait, quand j'en parle, on a l'impression que, comme on le disait hier, ces tonalités ne sont pas dans l'objet. Ces tonalités ne sont pas fixées en moi. Ça, on en parlera plus cet après-midi. Et donc, ces tonalités sont conditionnées selon la culture, selon les expériences, selon ce qui se passe ici et maintenant, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de conditions pour ces tonalités. Et c'est pour ça que souvent, elles ne sont pas fixes, même si on peut avoir le même contact qui va peut-être produire une tonalité relativement similaire. Mais un aspect qui est important à regarder, c'est le fait que la perception, comme on a déjà un petit peu parlé, va changer la tonalité. Et donc, la meilleure histoire que je connais par rapport à ça, c'est un ami à moi qui était moine il y a très longtemps en Thaïlande et qui mendiait, parce que c'est la tradition en Thaïlande pour les moines de mendier, donc il mendiait, puis il allait dans une rue, et il y avait toujours une dame très gentille qui dans son bol, parce que dans le bol tout est mis, et qui mettait ses petits trucs, et il pensait que c'était des petites cacahuètes grillées. Et donc, il trouvait que c'était bon, d'accord, elle est gentille, elle allait dans cette rue. Et puis, finalement, un jour, il demande à un ami, « Mais ces petits trucs, c'est des cacahuètes grillées, non ?» Et l'ami lui dit, « Ah non, non, ça, c'est des petites insectes grillées, en fait. » Je ne sais pas, des petites sauterelles ou des petites fourmis, je ne sais pas ce que c'était. Et après, il a changé de rue. Et donc, quand il pensait que c'était des cacahuètes, la tonalité était agréable, et dès qu'il a su que c'était des insectes, alors là, la tonalité a changé. Et donc, de voir que la perception va changer la tonalité. Donc, la tonalité n'est pas fixe. Donc, il y a déjà ça. La perception va changer la tonalité. Mais aussi de voir que les conditions vont... En fait, la tonalité est, je dirais, très mise avec les préjugés. D'où viennent nos préjugés? Comment apparaissent les préjugés? Et souvent, c'est parce qu'on a, au fil du temps, la culture, différentes choses. Enfin, ça, c'est de nouveau quelque chose qui est relativement connu, un phénomène relativement connu. C'est que les Anglais pensent que les Français mangent des escargots et ça les rend un peu dégoûtants. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la tonalité, c'est que la tonalité va être des fois associative. Donc, les escargots, c'est dégoûtant parce que dans ma culture, on ne mange pas des escargots. Un escargot. Bon, tout seul, ça va, mais quand tu penses à le manger, En fait, c'est intéressant. Tu vois un escargot, tu es un Anglais, tu vois un escargot, si tu n'aimes pas les escargots, bien sûr. Et c'est neutre. Ouh, il est mignon, cet escargot. Puis tu lui dis, ah, mais on pourrait le manger. Ah non. Et donc, la tonalité change par rapport à la perception de quelle va être ma relation avec l'objet. Mais après, on va associer. Cette personne mange des escargots, les escargots c'est dégoûtant, la personne est dégoûtante. Moi j'avais un peu ça avec ça c'était l'opposé, je vivais en Angleterre pendant longtemps, on était sur une sorte de domaine, il y avait des plantes qui poussaient dans le jardin, et chaque printemps, les Anglais étaient excités, très excités, parce qu'ils attendaient le jour où ils pourraient faire une tarte ou un crumble à la rhubarbe. Et moi, je redoutais toujours ce jour-là. Et j'avais un peu cette impression, parce que moi, la rhubarbe, je trouve ça très acide. À cause de mon estomac, je ne peux pas manger beaucoup d'acidité. Alors, il y avait tout ce truc, ils étaient tous excités, et donc il y avait cette rhubarbe, il faut la manger au départ, et puis en fait, ils étaient très excités par rapport à ce gâteau à la rhubarbe, et moi j'étais là, oh là là. Et donc, il y avait un peu cette impression, pour moi, que la rhubarbe me donnait une tonalité déplaisante, donc la rhubarbe était déplaisante. Et donc, si quelqu'un aime la rhubarbe qui est déplaisante, ça les contamine un petit peu. Alors après, au fil du temps, j'ai appris à avoir une autre relation avec la rhubarbe. Mais c'est intéressant ce qu'on fait par rapport à la tonalité. Comme la tonalité, en fait, va souvent nous amener à fixer l'objet, à fixer la personne. Et donc, c'est pour ça que, par rapport à la tonalité, je trouve que c'est très important et je connecterai la tonalité à l'éthique. Pour moi, c'est en fait la tonalité, la perception, comment on perçoit les choses. Et après, l'éthique vont aussi être très imbriquées. Et pour moi, je dirais que les préceptes, en fait, parce qu'en fait, dans le bouddhisme, vous avez les cinq préceptes, et je dirais les cinq préceptes, en fait, nous aident à gérer d'une façon bénéfique les tonalités. Et c'est un peu par rapport à ça, c'est un peu par rapport au fait que, hier, on parlait du fait que le Bouddha disait que nous avons une réaction instinctive sous-jacente aux tonalités. Donc, tonalité agréable, je m'agrippe, je veux que ça continue, je veux le répéter. Tonalité désagréable, j'en veux pas, je vais éviter, j'ai de l'aversion qui va généralement l'amplifier et être plus difficile. Neutre, si on comprend, ça devient plus agréable. Si on ne comprend pas, ça devient plus désagréable. Et donc, souvent on voit l'éthique comme des injonctions. Fais ci, ne fais pas ça. Tandis que je dirais, en partie dans le bouddhisme, l'éthique est vue comme un champ d'exploration. Parce que la méditation bouddhiste, le bouddhisme est au sujet de la conditionnalité. Ça, c'est le grand enseignement du Bouddha, c'est le fait que les choses sont conditionnées, qu'il y a cause et effet. Et donc, il est en train de nous dire, et c'est pour ça que la tonalité fait une grande partie de ça, c'est le fait qu'on est très influencé, très influençable. Ah, mais juste regarder la télé. Moi, généralement, je la regarde pas souvent, mais en ce moment, oh là là, l'autre jour, j'essayais de la regarder un peu. Oh là là, c'était parce qu'il y avait plein de tous ces débats il y a quelques semaines. Ben, j'étais intéressée par les transports parce que je dois voyager souvent en ce moment. Donc j'étais intéressée par cette grève de la CNCF. Et donc sur toutes les chaînes d'infos, il y avait ces débats. Alors il y avait toujours quatre personnes et puis ils y vont. Et alors, c'était, vous en entendez un, vous dites « Ah bon ?» Puis après, vous entendez l'autre qui dit l'opposé. Ah bon ? Et en fait, on pouvait facilement être influencé par l'un ou être influencé par l'autre, dépendant de comment il disait, qu'est-ce qu'il disait, quel était le ton et tout ça. Et je trouve que c'est dans la vie quotidienne, c'est très intéressant de remarquer comment nous sommes influencés. C'est pour ça que la pleine conscience des tonalités est tellement importante. Parce que ce que les autres nous disent, ce que l'on entend, ce que l'on voit. Vous n'avez aucun problème avec quelqu'un. Quelqu'un vient vous voir, vous raconte tous ses déboires avec une personne qui ne vous a rien fait. À la fin de toute cette histoire, ah ouais, mais cette personne est mauvaise. Et donc, elle est peut-être bien ou pas bien, je ne sais pas. Je ne connais pas les circonstances. Mais on est très influençable. Et donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'influencer les autres, bien sûr, de notre côté. Et dans un sens, on va souvent ils ont fait des études, que on va écouter quelqu'un si la personne, ce que nous dit, correspond dans un sens à notre tonalité agréable. Si la personne dit quelque chose qui conforte nos idées, on l'entend bien. Si la personne dit des choses qui ne confortent pas nos idées, c'est presque comme si on ne l'entendait pas. Et donc, la tonalité va beaucoup jouer sur ce que l'on va entendre, ce que l'on va comprendre et ce que l'on va retenir. Et donc, si on regarde l'éthique, c'est de voir que quand on fait quelque chose, quand on répond à un contact, qu'on entend quelque chose, qu'on voit quelque chose, souvent on va être mu, c'est là que l'intention dans les cinq vient, le fait que ça va nous faire mouvoir vers quelque chose. Et donc ça peut nous faire mouvoir d'une façon qui va être bénéfique, ou ça peut nous faire mouvoir d'une façon qui ne va pas être bénéfique pour nous-mêmes, pour les autres. Donc si on regarde chaque précepte, moi je trouve ça intéressant de regarder les préceptes par rapport à la tonalité. Qu'est-ce qui va me faire partir d'un côté? Comment je vais réagir? Comment je vais répondre à la tonalité? Et qu'est-ce que ça a à faire avec l'éthique? Donc si on regarde le premier précepte, c'est le précepte de ne pas tuer. Donc, généralement, on ne va pas tuer, mais on peut remarquer, une chose qu'on peut remarquer, c'est en été. Si on est dans la campagne ou si c'est dans un endroit qui a des moustiques, et on est assis en méditation, par exemple, et on est assis comme ça, puis on entend bzzz, bzzz, bzzz. Et alors, vous entendez le bzzz, 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 et la plupart du temps, à moins que vous ayez une impassibilité incroyable, il y aura une tonalité désagréable. Et généralement, on va, si on voit le truc, paf, on va aller très vite, enfin, on entend, paf, on y va. Et c'est intéressant ça, parce que, enfin, souvent il ne nous a pas encore eu, mais il nous aura peut-être. Alors, c'est intéressant de voir que on a une tonalité désagréable et généralement on va vouloir oblitérer ce qui crée la chose désagréable. Et donc on va avoir une réaction assez rapide quand quelque chose est désagréable. On va vouloir annihiler, éteindre, faire disparaître. Alors, pour nous, généralement, ça ne va pas être... Je présume que vous n'allez pas commencer à tuer toutes les personnes avec qui vous avez des difficultés. Mais qu'est-ce qu'on va faire au lieu de ça? Souvent, c'est intéressant que quelqu'un vous dit quelque chose qui est déplaisant et immédiatement, on va vouloir dire quelque chose de déplaisant en retour. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, mais généralement, ça ne va pas aider les circonstances. On peut essayer de faire ça et on voit que généralement, si après ça monte et ça peut devenir assez agressif. Et donc là, ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous dit quelque chose de déplaisant, il ne faut pas faire quelque chose. Mais quelle est la différence entre une réponse automatique qui va matcher ce qui est déplaisant, ce qui est douloureux, et une réponse créative qui se dit « Ok, il m'a dit quelque chose de déplaisant, elle m'a dit quelque chose de déplaisant, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Comment je peux être avec ça? Comment je peux répondre créativement à cette situation? » Et donc, ici, si on est un peu plus conscient d'une façon plus stable et équilibrée à la tonalité déplaisante, on partira moins dans la réaction immédiate. Et on pourra peut-être trouver un moyen de créer moins de douleur pour soi-même et pour les autres. Donc, l'idée, c'est pas que « Oh, ça me fait rien », c'est pas du tout ça. Mais c'est l'idée que si on est plus conscient du pouvoir de nous faire réagir les tonalités déplaisantes, on pourra peut-être trouver un moyen plus bénéfique pour soi-même et les autres de répondre. Après, la même chose avec le deuxième, c'est ne pas voler. Donc je présume que vous n'allez pas dérober les banques et tout ça. Mais pourquoi on volerait quelque chose? Pourquoi le précepte dit quelque chose qui ne nous appartient pas? Donc, pourquoi on prendrait quelque chose qui ne nous appartient pas? Généralement, parce que ce quelque chose évoque en nous des sentiments, des tonalités agréables. Je le veux. Je le veux pour moi. Et donc, c'est juste ça. Après, si je le prends illégalement, ça n'a peut-être pas une bonne idée. Mais c'est intéressant de ce contact qu'on a avec les choses. On voit quelque chose, c'est agréable de le voir. Après, c'est la question, est-ce que ça va être agréable de l'avoir? Parce qu'il y a une différence entre je vois quelque chose et j'obtiens quelque chose et je le garde. Parce que sur le moment, c'est ça qui est intéressant par rapport à la tonalité et le changement, c'est la chose sur le moment vous donne un ressenti agréable, comme j'en ai parlé hier avec les girolles, mais combien de temps va durer la tonalité agréable par rapport à l'objet? Et là, ça va être intéressant par rapport à la pleine conscience. Si vous êtes chez vous, vous avez différentes choses chez vous, et je présume que vous avez ces différents objets chez vous parce qu'il y a eu une tonalité agréable à un moment. Et après, c'est intéressant de voir combien de temps elle dure, cette tonalité agréable, et de voir que souvent, on ne va pas voir les objets et il n'y aura rien. Puis après, attention, on met son attention sur l'objet et est-ce que, à quel niveau va être la tonalité de cet objet qu'on a acquis parce que c'était agréable à un moment. Moi, je trouve que c'est intéressant avec les vêtements. Alors, je faisais un peu de ménage dans mes vêtements et j'avais des tonalités agréables. Je me disais, je garde les choses longtemps parce que la coupe, le passé au peu. Et je me disais, mais je ne le porte pas. Alors, j'ai toujours une tonalité agréable par rapport à l'objet même, mais je n'ai plus de tonalité agréable par rapport à porter l'objet. Alors ça, c'est aussi intéressant. Ce qu'on fait avec l'objet, comment ça transmet ou pas cette tonalité agréable. Comment souvent on a une attente par rapport à ça. Après, il y a le troisième précepte. C'est ne pas avoir des relations sexuelles qui causeraient du tort à soi-même, aux autres. Et là, c'est la même chose. Si on a des relations sexuelles qui causent du tort, surtout à une autre personne, pourquoi? Généralement, parce qu'il y a une tonalité au contact de la personne, il y a cette tonalité agréable aussi. Parce qu'il y a la tonalité, comme le Bouddha disait, il y a la tonalité du passé, 36 du passé, 36 du présent et 36 du futur. Et donc souvent, je dirais avec les relations sexuelles, c'est le fait qu'on voit la personne, elle nous donne une tonalité agréable, mais non, on a aussi l'impression que si on a du sexe avec cette personne, une relation sexuelle avec cette personne, ça va nous donner encore plus une tonalité agréable, parce que dans le passé, quand j'ai du sexe avec quelqu'un, j'ai une tonalité agréable. Et donc là, vous avez les trois qui viennent ensemble. Et des fois, à cause de ça, ça va créer de la douleur aux autres, ou peut-être des fois aussi à soi-même. Donc juste de regarder un peu par rapport à ça, par rapport aux relations sexuelles qu'on a, est-ce que c'est fixé? Est-ce qu'il y a une attente par rapport au passé? Est-ce qu'il y a une attente par rapport au futur? Ou est-ce qu'en fait j'ai une relation sexuelle avec la personne qui est saine et qui, j'espère, a au moins un petit peu d'amour ou plus, hein, j'espère. Après, il y a le quatrième précepte. Alors là, c'est intéressant parce que ça va des deux côtés. Le quatrième précepte est par rapport au mensonge. Donc, il nous demande de ne pas mentir. Et après, la question est, pourquoi je mentirais ? En fait, je peux mentir parce que j'ai un ressenti désagréable. Tu as cassé ça. Ah, mais je ne veux pas casser. Je ne veux pas casser, c'est pas bon. Ou je mens à cause d'un ressenti agréable. Je me rappelle, il y a très très longtemps, quand j'étais une nonne en Corée, je m'occupais des gens étrangers qui venaient au temple. Je traduisais pour eux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un jeune homme qui est arrivé, je lui avais montré des choses, da-da-da-da. Et à la fin de la journée, je me suis rendu compte que toute la journée, il m'avait juste raconté des mensonges sur lui, que rien n'était vrai. Alors moi, ça ne me faisait rien, parce que qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il ait fait ci et ça, moi, ça ne me faisait rien. Moi, j'étais juste là pour lui montrer l'endroit. Mais ça m'avait vraiment interrogée. Pourquoi quelqu'un raconterait de tels mensonges sur eux-mêmes ? Et je me suis dit, ça doit être parce que quand ils racontent ces mensonges, ça leur donne un sentiment agréable. Qu'ils ne peuvent pas accepter qu'ils sont juste ordinaires. Et de se montrer extraordinaire, ça doit produire un ressenti agréable. Donc c'est intéressant. Quand on ment à cause de quelque chose d'agréable ou de désagréable, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mentir, en fait, d'une tonalité neutre. Et alors c'est ce qu'on appelle, pour protéger quelqu'un ou pour ne pas s'engager. Souvent, des fois, il y a les gens qui me posent des questions. Et là, je dirais, généralement, je n'ai aucun commentaire à faire. Et là, je prends une position neutre, parce que je ne veux pas mentir, et en même temps, je ne veux pas dire la vérité. Donc, je ne dis rien. Après, avec ma mère, souvent, on pourrait dire que je dis des mensonges, mais c'est parce que si je dis la vérité, ça va beaucoup l'inquiéter. Alors, mais comme elle ne va pas se rappeler ce que j'ai dit, parce qu'elle n'a pas de mémoire courte, mais alors du tout. Ce n'est pas important ce que je lui dis. Dans un sens, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas agitée. Alors on va lui dire, ça c'est déjà fait, ou quoi que ce soit. Alors souvent, avec ma mère, je vais devoir dire quelque chose qui est un peu comme un mensonge, mais c'est vraiment plus pour faire qu'elle ne soit pas angoissée ou qu'elle se stresse. Mais aussi dans l'optique, elle ne s'en souviendra pas de toute façon. Donc c'est très comme si c'était un mensonge irréel, on pourrait presque dire. Et le cinquième précepte est par rapport aux intoxicants, à l'alcool par exemple. Et là, de nouveau, c'est la même chose. On peut prendre des intoxicants, on peut prendre des drogues, on peut prendre de l'alcool. Parce qu'en fait, de prendre de l'alcool, ça nous fait avoir une tonalité agréable. Moi, récemment, j'ai lu un livre où cette jeune femme disait « J'étais très angoissée quand j'étais une jeune enfant. Et le jour de mes 15 ans, le jour où j'ai bu de l'alcool pour la première fois, je suis tombée amoureuse de l'alcool. » Parce que pour la première fois, je me sentais bien. Donc, l'alcool, tout de suite, l'a fait ressentir une tonalité agréable. Et donc, après ça, elle est devenue alcoolique. Et ça lui a pris des années, à pouvoir trouver un autre moyen, dans un sens, de gérer son angoisse. Et donc, souvent, on va prendre les drogues parce qu'on a une tonalité du ressenti désagréable. La drogue ou l'alcool va tourner ça vers une tonalité agréable, mais au fil du temps, ça ne va pas aider, parce que ce qui lui est arrivé à elle, c'est qu'elle avait des gros, je ne sais pas comment on dit ça en français, blackout. Que pendant, elle faisait des, elle est devenue totalement saoule, et après...
Amnésie.
Voilà, voilà. Pendant deux jours, elle ne savait pas ce qu'elle avait fait. Elle se retrouvait avec des blessures et des trucs comme ça. Et finalement, à cause de ça, elle a trouvé un moyen d'arrêter. Et donc, de voir que quand on prend des drogues ou on prend de l'alcool, il y aura généralement soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Tonalité agréable ou tonalité désagréable. Il y avait ce jeune homme qui s'était retrouvé en prison parce qu'il aimait beaucoup de prendre des drogues, du hashish et tout ça. Et puis, il faisait un peu de deal sur le côté pour finir ses ronds de mois. Et donc, il est allé en prison, il a fait son temps. Puis, il s'est dit, mais je le faisais parce que c'était agréable. Il aimait ça. C'était chouette. Ça lui donnait des montées d'adrénaline. Il avait un ressenti. Et donc, il voulait reproduire ce ressenti. Et en même temps, il ne voulait pas retourner en prison. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le ressenti agréable similaire? Et puis, il s'est mis au surf. Et ça a été beaucoup plus efficace. Et c'était légal. Donc, c'est intéressant, de nouveau, comment on peut aussi... la pleine conscience, ça ne veut pas dire que je ne peux pas prendre d'alcool, je ne peux pas prendre de drogue. Mais est-ce que... à travers quelque chose de plus, qui va être peut-être plus bénéfique, je pourrais avoir un ressenti agréable similaire, ou je trouverais un moyen d'avoir moins de ressenti désagréable, mais en faisant autre chose. Donc, toute cette éthique, c'est vraiment une exploration de qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est désagréable. Et je vais finir par une image de... parce que de nos jours, on est entouré, surtout si on vit en ville, de toutes ces devantures avec tous ces objets. Et vous avez l'impression que les objets vous appellent. Ouh ! Tu me veux, tu me veux. C'est comme si, en fait, il y avait une auréole d'agréable autour des objets. Et bien sûr, les gens qui font l'emballage sont très conscients de ça. Alors de temps en temps j'achète des produits congelés pour ma mère et l'emballage est très beau. Il y a ces petits trucs qui ont l'air d'être aux courgettes, mais alors vraiment c'est chouette sur l'emballage. Et puis j'ouvre l'emballage et puis j'ai ce petit machin tristouné, et c'est toujours intéressant de voir parce que là il y a comment ils sont qui vont avoir un ressenti agréable et l'espoir qu'on a que ça va faire plaisir à la personne. Et quand vous ouvrez le truc, ça vraiment descend. Descend du niveau que c'était monté. Mais c'était il y a très longtemps. De temps en temps, je regarde la télé quand je fais mon repassage. Et donc, il y avait cette émission. C'était une des émissions où il y a le monsieur qui vous aide à gérer vos angoisses ou des choses comme ça. Et là, le monsieur, il gérait une dame qui était accro au shopping. Mais alors, accro au shopping. Elle allait dans un magasin, elle achetait 5 gilets de différentes couleurs, etc., etc. Et donc, elle lui fait faire des exercices et tout ça. Puis l'exercice final, c'est qu'elle aille dans le magasin préféré, qu'elle rentre et qu'elle en sorte sans rien acheter. Donc, elle rentre, elle reste un peu, elle sort, et en sortant, on la voit regarder la devanture, et on voit la soif, on voit le pouvoir de l'attirance que cet objet va me donner un ressenti agréable, qui va me faire sentir mieux pendant un petit moment. Et comme ça, je ne ressentirai pas cet incroyable ressenti désagréable. Et moi, de voir ce regard de cette femme qui essaye de ne pas acter sur ce désir, ah, c'était douloureux de voir ça. Et donc, de voir par rapport au ressenti, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant, mais sans, c'est vraiment pas pour se culpabiliser. Les préceptes, c'est pas pour se culpabiliser, mais c'est vraiment pour explorer quelle est ma relation à moi-même, quelle est ma relation aux autres, et comment ça va être influencé par le contact et la tonalité du ressenti qui va apparaître. Et aussi, de voir, ça c'est un des trucs qui est très important par rapport, on parlait hier du regard profond, de la vision pénétrante, de voir qu'on va avoir un ressenti agréable, désagréable ou neutre. Et il va y avoir, bien sûr, cette réaction sous-jacente de « je veux, je ne veux pas ». Mais si on ne fait rien avec la réaction sous-jacente et qu'on l'observe, combien de temps va-t-elle durer? C'est ça qui est intéressant à regarder. Et souvent, c'est ça sur lequel les gens travaillent. C'est qu'on a l'impression, quand on a le ressenti, surtout si c'est un ressenti agréable fort, désagréable fort, immédiatement, on a l'impression que ça va durer tellement longtemps que c'est insupportable et donc vaut mieux que je le prenne maintenant. C'est un peu ce qu'on se dit. Ça va être tellement fort, durer tellement longtemps, ça va être horrible, donc tant qu'à faire, j'y vais. Et donc, la méditation de la pleine conscience apporte une sorte de questionnement. Je parlerai plus du questionnement cet après-midi, mais une sorte de questionnement, ça ne veut pas dire que nécessairement vous devez rester tout le temps avec quelque chose, mais est-ce qu'on peut explorer combien de temps la tonalité va durer et combien de temps la réaction va durer ? Si je fais rien. Et si ça passe, on n'a rien à faire. Si ça dure trop longtemps, oui, là, on pourra en discuter cet après-midi. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Mais c'est ce que j'aimerais suggérer ce matin, en termes de pratique, de continuer un peu comme on avait fait hier. Ce matin, on revient à l'ancrage, soit du souffle, si ça vous convient, soit du body scan, d'être conscient des sensations dans le corps, si c'est un ancrage qui vous est utile, soit de l'ancrage des sons, si c'est aussi un ancrage qui vous est utile. Alors ça, c'est vraiment ce qui marche pour vous. Alors soit vous en choisissez un et restez avec parce que ça vous convient, ou soit vous pouvez passer... Commencez par la respiration, ouvrir au son, revenir au corps. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'ancrage, c'est le fait que vous soyez, il y ait cette attention bienveillante. C'est ça qui est important. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que ça vous est plus utile d'être sur quelque chose qui est plus focalisé, ou est-ce que vous préférez une attention qui est toujours là, mais qui flotte plus? De nouveau, on peut plus en discuter pendant la discussion. Si vous voulez. Et donc, ça c'est la pratique. Et après, on utilise ce regard de l'expérience sur l'impermanence pour voir un petit peu, selon les sons, selon les pensées, selon les sensations, quelle est la tonalité et combien de temps elle dure. Et de remarquer s'il y a une petite réaction par rapport à la tonalité, et si je ne fais rien, combien de temps la réaction va durer ou pas. Et j'aimerais commencer, juste parce que là j'ai été un peu plus loin du temps, mais on peut faire un peu ce qu'on veut avec le programme. Alors ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pendant juste 10 minutes, comme il fait beau, vous alliez marcher dehors. Et en marchant, d'essayer de vous focaliser plus sur les odeurs et sur les formes et les couleurs. Et parce que là, en ce moment, dans le jardin, il y a plein d'odeurs, en fait, de différentes fleurs, de différentes choses. Et juste d'être conscient des odeurs, si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, que vous êtes allergique et tout ça, juste faites sur les couleurs et les formes. Et de remarquer, vous voyez des formes, vous êtes aussi sur les sons, s'il y a des sons, vous écoutez les sons, mais aussi sur les senteurs. Je sens quelque chose. Quelle est l'influence de la perception ou pas? Est-ce que je peux juste sentir, sans me demander mais d'où elle vient, de quelle fleur? Alors si on est un jardinier, on sait immédiatement, mais si on n'est pas jardinier, on ne sait pas trop. Et juste, qu'est-ce que ça fait si on ne recherche pas ce que c'est, donc perception ou pas, est-ce que ça change la tonalité? Et aussi de voir que s'il y a une tonalité agréable ou désagréable, comment je réagis en termes de senteur? Et aussi, ah ça c'est un bon exercice, je sais c'est un peu comme ça, mais si vous allez au WC et qu'il y a quelqu'un qui a été avant vous et qui a fait un truc intéressant, c'est intéressant parce que si c'est nous qui le faisons, notre tonalité va être différente que si c'est quelqu'un d'autre, même si c'est la même puissance, c'est aussi intéressant. Ou si on s'inquiète par rapport à ce qu'on a fait et ce qu'on a produit pour la personne après. Et donc ça aussi, c'est tout un champ d'expérience personnelle, interpersonnelle, qui peut être intéressant aussi quand on va au WC. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, soit dans le jardin, soit quand vous vaquez à vos occupations. Donc, vous avez 10 minutes, et puis après, je sonne la cloche, on revient dans 10 minutes, et puis on fera la méditation.